Radio Django, la rose des vents.
18h29 sur Radio Django, c'est l'heure de la rose des vents. Bonsoir Mamadi.
Bonsoir Fabien.
Tu es rédacteur de Voix d'Exil, tu nous as rejoint ce soir et tu vas nous parler ce soir des enjeux des procédures d'asile express de la nouvelle loi sur l'asile.
En effet Fabien, le 5 juin 2016, le peuple suisse a voté oui par 66,8% pour une révision de la loi sur l'asile. Cette nouvelle loi prévoit une accélération de la procédure d'asile qui se déroulera en grande partie dans les 6 nouveaux centres fédéraux pour requérants d'asile. Alors, pour mener cette nouvelle procédure, les requérants d'asile se voient proposer une protection juridique lors de leur séjour dans ces nouveaux centres. La loi entrera en vigueur dans 10 jours, c'est-à-dire le 1er mars 2019.
Et donc, Mamadi, si je comprends bien, les centres fédéraux pour requérants d'asile deviennent désormais à la fois des centres d'enregistrement et également en même temps des centres d'hébergement pour les requérants d'asile.
Oui, c'est effectivement ça, Fabien. À leur arrivée en Suisse, les requérants d'asile doivent déposer leur demande dans l'un de 6 centres fédéraux où ils seront hébergés pendant 140 jours au maximum. Dans un premier temps et dans la plupart des étapes de la procédure, ils restent dans un centre fédéral dit avec tâche procédurale. Et puis ils seront transférés dans un autre centre fédéral, dit sans tâche procédurale, où ils seront en attente en fait de leur décision d'asile ou de l'exécution de leur renvoi.
Évidemment, un lieu d'attente. Et pour comprendre les enjeux de cette nouvelle procédure qui va être mise en place dans quelques jours, tu as invité bien forcément un juriste.
Oui, en effet, pour en savoir plus, Christophe Taffelmacher a répondu à notre invitation ce soir. Bonsoir.
Bonsoir.
Et bienvenue. Vous étiez juriste au service d'entraide juridique aux exilés et actuellement vous êtes avocat indépendant au sein du collectif d'avocats spécialisé notamment en droit de la migration, en droit de l'asile à Lausanne. Quels sont les principaux changements qu'occasionne cette révision de loi qui entrera en vigueur le 1er mars ?
Je crois que vous avez bien exposé la situation. Mmh. Ce qui va particulièrement changer, c'est au fond la concentration de la procédure dans ces fameux centres fédéraux d'asile, dont l'acronyme sera, je pense que ça vous amusera, CFA.
Oui,
effectivement.
D'accord. Par rapport à ces nouveaux centres, qu'est-ce que je veux dire ? La restriction, en fait, de... La nouvelle loi, en fait, c'est...
Quels seront les avantages, hein, peut-être, Mohamed ?
Exactement. Quels seront les avantages et inconvénients de cette révision qui veut rendre les procédures efficaces ?
Bon, alors, je vais avoir une position assez carrée. Je pense qu'il n'y a aucun avantage et que des inconvénients. La nouvelle procédure est, au fond, en développement de ce qu'on voyait avant, c'est-à-dire une concentration de plus en plus grande de la procédure dans ces portes d'entrée que sont les centres fédéraux. Mmh. Avant, on les appelait CERA, maintenant, ce sera les CFA. Alors, je faisais un peu une blague en me disant, est-ce qu'ils auront tant de valeur que le franc CFA ? Ça, c'est la question. Le problème, à mon avis, c'est que, justement, on va accentuer le côté vase clos.
D'accord.
On va couper les requérants d'asile de la société civile. Mmh. Ils seront enfermés et tout étant censé se dérouler extrêmement vite, on peut avoir les plus grands doutes quant à savoir si réellement les personnes seront en mesure de présenter dans de bonnes conditions leur demande d'asile. Mmh. Moi, j'en doute énormément. Je pense qu'on est juste en train de faire une procédure un peu à l'image d'une usine de corned beef. On veut faire entrer les gens d'un côté, 140 jours plus tard au maximum, ils sortent de l'autre pour être mis dans un avion. Donc en fait, c'est une espèce de procédure bureaucratique qui n'est pas du tout orientée vers la protection des gens, mais uniquement vers la satisfaction des besoins de l'administration dans une politique qui a été définie de restriction en matière d'asile. Et voilà.
Mais en même temps, le peuple a voté pour ça.
Oui, parce qu'on lui a dit, y compris du côté du Parti socialiste et de la ministre socialiste, que c'était une bonne procédure. En plus, on est dans un climat extrêmement négatif sur les requérants d'asile. La totalité des révisions présentées par le gouvernement ont toujours été acceptées parce qu'on a un climat extrêmement agressif et dramatisé contre les requérants d'asile. Je crois qu'en réalité, les gens ne perçoivent pas exactement quels sont les enjeux de la procédure du point de vue des réfugiés et des besoins des réfugiés. Et dans toute la campagne, je n'ai jamais vraiment entendu parler des besoins des réfugiés.
Mmh. D'accord. Mais vous avez dit qu'ils seront enfermés pendant ces 140 jours maximum. Mais est-ce que peut-on enfermer une personne durant 140 jours pour une procédure d'asile? Est-ce que cette détention administrative est légale?
Alors, c'est au fond la même situation que celle qui existe actuellement, simplement elle est un petit peu rallongée. Donc au fond, ce n'est pas une vraie détention, les gens peuvent sortir du centre, simplement ces sorties sont extrêmement contrôlées, tant pour la sortie que pour la rentrée. Donc on pourrait plutôt parler d'une forme de semi-détention, ce qui me préoccupe beaucoup, par exemple, ce qui a été dénoncé par des collectifs militants du côté de Neuchâtel, c'est que les enfants... non seulement seront détenus dans le centre, mais seront scolarisés dans le centre. Et on a déjà eu des informations comme quoi les heures d'école assurées pour les enfants dans ces centres sont considérablement inférieures à celles de leurs petits camarades dans l'école publique. Okay. Donc je pense que cette détention pose d'énormes problèmes. Les échos qu'on a eus des premières expériences, puisqu'il y a eu des phases de tests, c'est que les gens sont extrêmement tendus, sont angoissés, perçoivent très bien que ces centres sont quand même orientés vers des décisions négatives et de renvoi. Et ça provoque, notamment chez des hommes jeunes angoissés, des situations difficiles à contrôler au niveau angoisse scolaire, coexistence, enfin bref, ça, je pense qu'on on pourrait se retrouver avec des problèmes, y compris d'ordre sécuritaire, assez rapidement.
C'est vrai. Mais ces centres sont-ils opérationnels aujourd'hui?
Alors, le secrétariat d'État aux migrations dit que oui. Okay. Ils ont mené une phase de test à Zurich, ils ont mené une deuxième phase de test à Boudry. Je pense qu'ils se sont donné les moyens, effectivement, pour qu'en tout cas, ça puisse démarrer. Après, comment ça va se passer concrètement, c'est un peu l'inconnu pour tout le monde. Donc, au 1er mars, tout le monde va devoir en partie improviser. Parce qu'on a déjà connu à d'autres occasions quand il y a eu des grandes révisions de la loi sur l'asile. Donc, ma foi, là, on va un petit peu dans l'inconnu, on va devoir improviser.
D'accord. Mais à quoi ressemblent ces centres fédéraux? Vous avez une idée?
Alors moi, personnellement, je ne suis pas allé au centre de Perreux. Ce sont en général des bâtiments administratifs entourés de grillages, de barbelés, qui ressemblent plus à un centre de détention qu'à un lieu pour accueillir des gens qui viennent demander protection à la Suisse parce qu'ils ont subi des persécutions.
D'accord. Et ces personnes, les demandeurs d'asile, bénéficieront d'une représentation juridique. Était-ce nécessaire d'inclure cela dans la loi?
Alors, la situation, elle est en gros la suivante. C'est que jusqu'à présent, les autorités suisses ont toujours mis les pieds contre le mur et ont toujours refusé d'assurer une protection juridique pour les requérants d'asile sous forme d'instance judiciaire. Il y a eu quelques tempéraments au niveau du recours, mais en tout cas, au niveau de la première instance, non. Avec le système qui est mis en place, cette concentration dans les centres fédéraux d'asile et le concept d'accélération, la Suisse a été obligée d'admettre que la procédure allait être quand même massivement défavorable aux requérants d'asile et qu'il fallait bien compenser ça. En plus, il y a eu un certain nombre de recommandations de la part d'organismes internationaux disant à la Suisse, vous devez mettre en place une véritable protection juridique pour les requérants d'asile. Donc, on a mis en place effectivement dans la loi une protection juridique, mais dans la logique dans laquelle nous sommes, c'est absolument pas, à mon avis, une protection juridique équivalente à, par exemple, ce qui existe au niveau pénal, où il y a des avocats qui interviennent, il y a des piquets qui sont organisés, organisés par l'Ordre des avocats vaudois, tout ceci financé par l'assistance judiciaire de l'État, avec un contrôle, évidemment, au niveau des dépenses, mais enfin, une liberté totale laissée aux avocats sur la façon dont ils gèrent le mandat et leur lien avec les clients, sans compter que ces avocats, au niveau pénal, ont évidemment leur propre bureau, qui sont indépendants, par exemple, des procureurs ou des tribunaux. Et là, on va avoir tout concentré dans un seul lieu.
D'accord.
Et en plus, alors, dans la loi, le Conseil fédéral a introduit un nombre extrêmement important de limitations à la tâche même du mandataire, notamment au niveau du financement. Il y a un système assez complexe où c'est en fait un prestataire, donc une organisation qui passera un contrat avec le SEM, mm-hmm. et cette organisation engagera des juristes, okay. et cette organisation se voit rémunérée sur la base forfaitaire pour payer quelques actes extrêmement précis au niveau juridique. Mm-hmm. Donc, le mandataire sera quand même extrêmement limité. Et en plus, il y a un contrôle de qualité. Alors, moi, par exemple, en tant qu'avocat, je n'ai pas de contrôle de qualité sur mon travail. Mm-hmm. Et donc, je ne peux avoir qu'une une très grande crainte quant à savoir que va impliquer ce contrôle de qualité sur le travail et l'indépendance du mandataire. La phase de thèse de Zurich, ce qui est ressorti, c'est que les réfugiés étaient extrêmement méfiants par rapport aux mandataires, arrivaient difficilement à les distinguer des fonctionnaires et préféraient sortir du centre, parce qu'ils en ont le droit, et aller consulter des avocats privés en ville, parce que ça leur... ils pensaient que ça allait leur donner une meilleure protection juridique. Je crois que ça résume bien la situation. Je pense que malheureusement, contrairement à ce qu'on a annoncé, ce que Mme Sommaruga a annoncé au peuple suisse au moment de la votation, la protection juridique qui est proposée n'est pas suffisante, n'est pas indépendante et à mon avis est à la limite de l'alibi.
D'accord, mais la protection juridique n'est pas indépendante, il y a une restriction à la liberté de mouvement, mais tout cela signifierait quoi pour les requérants d'asile ?
Je ne suis pas sûr de comprendre la question, signifierait quoi ?
Là, on a une protection juridique qui est proposée aux requérants d'asile qui n'est pas indépendante. Mm-hmm. Il y a quand même une restriction à la liberté de mouvement en fait, dans ces nouveaux centres fédéraux. Mais tout cela, qu'est-ce que ça signifierait pour les requérants d'asile ? Comment ils doivent prendre ça, à votre avis ?
Moi, ce que je vois comme problème, c'est qu'au fond, le réfugié, il arrive dans un pays qu'il ne connaît pas, dont souvent il ne connaît pas la langue. Il ne connaît pas le système juridique et il ne sait pas comment on fait une demande d'asile dans la plupart des cas. Alors, qu'on lui donne un mandataire d'office, ce n'est pas en soi une mauvaise idée, je suis plutôt content. Qu'il y ait une information, c'est bien. Le problème, c'est qu'on met tout ça dans une procédure dite cadencée ou accélérée qui réduit énormément les délais, qui fait que le temps dont moi j'ai besoin en tant qu'avocat pour établir un lien de confiance avec quelqu'un, avec un client, ne sera pas possible. D'accord. Et puis, il y a aussi le temps pour réunir le dossier, pour que la personne comprenne comment les autorités suisses traite un dossier et quelles sont les exigences qu'elles ont pour considérer qu'un dossier est fondé.
Mais ce que vous voulez dire par là que les 140 jours sont trop courts ?
Alors, c'est pas tellement les 140 jours. Les 140 jours, c'est la durée maximale dans le centre. Si on regarde les chiffres donnés par le SEM, le secrétariat d'État aux migrations, il y a une phase préparatoire qui dure 21 jours et la phase cadencée, c'est-à-dire celle où on va entendre la personne sur les motifs d'asile, donc là où vraiment tout se joue de manière importante, c'est 8 jours. C'est très court. Mais même 21 à 8, ça fait 29. On n'est même pas un mois. Un mois pour monter un dossier d'asile, c'est juste une blague. Ouais. C'est juste une blague. Avec ça, on arrive à avoir quelque chose d'un peu formel, un enregistrement sommaire, les empreintes digitales, une personne qui sera un peu en catastrophe, amenée à donner des motifs d'asile, un mandataire qui va faire certainement ce qu'il peut, mais avec extrêmement peu de moyens, et puis ensuite, une décision qui tombe.
En tout cas. Et donc, en quelque sorte, cette... nouvelle loi par rapport à l'accélération de la procédure n'est pas une bonne nouvelle pour les requérants d'asile.
Je crois que ce qui moi m'agace, m'énerve, me révolte même depuis longtemps, parce que ça fait depuis les années 80 qu'on parle de l'accélération des procédures. L'accélération d'une procédure, ce n'est pas une notion juridique. L'accélération n'est pas une valeur en soi. Accélérer, ce n'est pas en soi bien. Il y a des dossiers compliqués qui ont besoin de temps. Il y a des dossiers simples qui peuvent aller vite. Il y a des gens qui ne sont pas bien pour qu'il faut leur laisser du temps de se mettre en point. C'est une notion purement politique parce qu'on veut dire qu'on traite rapidement les cas et qu'on expulse rapidement les cas. Mais au fond, l'accélération des procédures n'est pas une bonne nouvelle. Moi, je passe mon temps à dire aux clients que dans 99% des cas, une décision rapide, c'est une décision négative avec une expulsion.
Par sécurité. Pour vous, ce changement de cette révision de loi, qu'est-ce qu'elle va changer concrètement dans votre métier ?
Alors, ce qu'elle va changer, c'est, encore une fois, la concentration dans le centre fédéral pour la Romandie, ce sera Perreux. Donc ça veut dire que ce sera un accès beaucoup plus difficile des gens à l'extérieur et donc de l'extérieur, par exemple moi, aux gens. Donc tout va beaucoup reposer sur les personnes qui sont chargées de la représentation juridique dans les centres. Ça va être assez, assez lourd pour eux. Ensuite, dans les cantons, il y aura, selon les chiffres, donc, mais ça c'est un peu un pari du SEM, il y aura une partie des gens qui seront en procédure étendue, qui eux seront alors au fond dans la même situation que les requérants d'asile dans les centres EVAM actuellement, qui pourront voir un avocat, aller au SAGE, appeler leur famille, récolter des pièces. Ils auront plus de temps, mais on nous dit que ce serait au maximum 40% des gens à voir. Et puis, il y a, et à mon avis, ça, ça va aussi beaucoup changer, il va y avoir une masse plus importante de gens qui seront soit dans des centres fédéraux d'asile sans tâche procédurale, c'est ça le nom qu'on leur a donné, soit dans les cantons en voie d'expulsion parce que les 140 jours sont passés. Et les premiers chiffres qui ont été donnés, c'est que dans ces centres fédéraux sans tâche procédurale, 60% des gens disparaissent. Et donc, je pense qu'on va avoir beaucoup plus de gens qui seront dans des situations de séjour irrégulier, pour qui ce sera extrêmement compliqué d'arriver à les remettre en procédure ou de faire des procédures pour eux.
Effectivement, question un peu délicate et on l'a dit, ça commence vendredi prochain, ce sera le 1er mars. Merci beaucoup à vous Christophe Teufelmacher d'être venu nous en parler ce soir et de nous apporter avec plaisir. Merci de nous avoir éclairé avec vos lumières. Je rappelle que vous êtes avocat indépendant au sein du collectif d'avocats spécialisés, notamment en droit de la migration, en droit de l'asile à Lausanne également. Et puis merci également à toi Mamadi, rédacteur à Voix d'Exil, le média d'information destiné à l'expression libre des personnes migrantes en Suisse et ailleurs. Une très bonne soirée à vous deux.
Merci.
Bonne soirée.
Un sujet à retrouver sur voixdexil.ch et sur notre site django.fm. Voici un petit peu de musique à 18h46 avant de parler théâtre. Come on over here, little Bobby, and sit down on your daddy's knee. And let me tell you a story about your Uncle Stanley and me. Once long time ago we was lost at sea. Sailors of love and distress, I tell this tale to thee. A fine little gal, she wait for me. Me catch the ship across the sea. I sail the ship all alone. I never think I make it home. Oh, no way, no way. Stanley Clark qui nous chante Louise Louise sur Radio Django.
Radio Django, culture.
Et ce soir, nous parlons d'un atelier intensif de théâtre physique qui va être donné ici dans les locaux de Pôle Sud à partir de vendredi prochain, vendredi et samedi prochain, avec un spectacle pour clôturer l'atelier de samedi prochain. Bonsoir Jean-François Meuvly.
Mais bonsoir.
Bienvenue sur Radio Django. On vous connaît sous le nom de Paco hein, dans le domaine du théâtre. Donc je ne sais pas comment on vous appelle Paco, Jean-François, ce soir.
Paco, c'est peut-être plus facile.
Paco, ouais. Très bien. Voilà qui est dit. Nous savons que depuis 2018, vous dirigez des ateliers de théâtre à Berlin. Vous co-dirigez avec Julia Bulmer et Jabato Xavi Lopez et vous jouez dans la compagnie théâtrale des Airs Teatro qui est basée à Berlin toujours. Vous avez étudié en sciences politiques et en travail social hein, pour ce qui est de vos études. C'est pas mal d'activités tout ça en plus de ces distinctions. Expliquez-nous peut-être qu'est-ce qui vous a amené à faire partie d'une compagnie théâtrale et à diriger des ateliers de théâtre comme celui qui aura lieu là en fin de semaine.
Alors, c'est beaucoup de distinctions, c'est peut-être un peu trop. Ça, c'était la présentation formelle. Hein.
Bah voilà, on dira ça.
Voilà.
C'est votre pedigree finalement.
Oui. Après, ce qui m'a poussé à créer cette compagnie théâtrale, c'est surtout une rencontre. On a fait nos études ensemble à Buenos Aires en 2017. Et du coup, avec Xavi et Julia, on a décidé là-bas, en terminant notre année de formation théâtrale, de travailler ensemble. Et puis, comme je disais à Isaura auparavant, l'idée de Berlin, de nous baser à Berlin, c'était simplement de pas revenir en Suisse, parce que j'ai pas envie de revenir en Suisse maintenant. Et puis Berlin, ça bouge pas mal. Et puis du coup, on s'est retrouvés là-bas. Donc, on travaille, on essaie de lancer un processus.
Et puis, j'aimerais revenir sur votre approche théâtrale, parce que vous utilisez des notions par rapport à la compagnie des Aires Teatro. Vous mentionnez vouloir répondre par le théâtre à la nécessité de créer un théâtre de tous et pour tous par le biais d'un langage commun. Et en parallèle, vous pensez le théâtre comme un outil pédagogique bidirectionnel. Qu'est-ce que vous entendez par là ?
Alors, bidirectionnel, ouais, ça, effectivement, alors, nos documents ne sont pas encore terminés.